vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 152, Jacques Vallée, une alliance zélée. Chers amis, bonjour. Voici un personnage bien occupé. Il est pressé, stylé sans râler. Peut-être coquet, mais sûrement zélé. Et qu'a-t-il fait? Il est allé voir les chiens aux queues nues, dévoreurs de tropiques au Mexique. Il a philosophé comme un corbeau sur un arbre perché avec sa chienne dans la région parisienne. Il a englouti des bonbons à Pona près de Bombay. Il a été délégué général en chantant à l'Alliance française au Pakistan. Il a enseigné la philo à des maboules à Istanbul. Et de retour en Alsace, cela avait l'air de lui plaire. On l'a envoyé à Bischwiller. Ensuite, il a eu une promo et ce fut à Haguenau. Quel homme zélé! Bonjour Jacques Vallée.
Bonjour.
Alors vous aimez beaucoup voyager?
Oui, j'aime beaucoup voyager, mais ça n'a pas été un véritable choix personnel, ça a été quand même des missions professionnelles.
Voilà, alors vous êtes donc délégué, responsable, directeur, président de l'Alliance française, et c'est comme cela que vous avez fait plein de pays que je viens d'évoquer.
Disons qu'en ce moment, je suis secrétaire général de l'Alliance française Strasbourg-Europe. Mais quand j'ai commencé ma carrière dans le réseau des alliances, j'ai commencé par être ce qu'on appelle directeur des cours d'une alliance française, à Mexico en l'occurrence.
Voilà. Et alors, est-ce que les voyages forment la paresse? La jeunesse, on sait, mais...
Est-ce qu'ils forment la paresse? Moi, ça a plutôt été des sources d'énergie qui j'ai eu l'impression que je décuplais plutôt mes activités. Donc, je ne dirais pas que ça a été la paresse.
Bon, on va résumer quand même. Vous êtes prof de philo.
Ah oui.
Et vous avez donc fait carrière partout dans le monde. Est-ce que dans les alliances françaises, vous avez commencé par enseigner, alors non pas la philo, mais le français, mais peut-être par des exemples de grands philosophes?
Ma première mission à l'étranger, à Mexico, donc au Mexique, j'ai effectivement enseigné ce qu'on appelle le FLE, le français langue étrangère, et j'ai également assuré un cours de littérature française au siège central de l'Alliance française de Mexico.
Et donc, c'était quelque chose de... je ne sais pas, c'est par hasard que vous étiez, parce que vous êtes alsacien, mais pas vraiment. Là, vous êtes alsacien maintenant, mais avant, vous étiez de quelle partie de...
Ah, je viens d'une région paumée de la France de l'intérieur, puisque je suis creusois, pour vous avouer la vérité.
Oui, alors, le creusois, vous savez que c'est un excellent gâteau, vous connaissez?
Oui, un gâteau creusois, en l'occurrence, je connais bien. Oui.
Vous auriez la recette du creusois?
Non.
Non.
C'est une recette qui a été gardée jalousement par les moines, je crois.
Oui.
Et qui n'est pas diffusée. Pas à ma connaissance.
Puisqu'on est entre nous, moi je connais à Strasbourg une prof géniale, et avec son mari, donc c'est monsieur et madame Ciotat pour les étudiants, et madame Ciotat, Brigitte, elle fait un creusois à tomber à la renverse. Et j'enchaîne tout de suite, puisqu'on est dans la digression. Est-ce que vous aimez la tarte au fromage alsacienne?
Ah, c'est une... Alors, je suis confus et honteux, parce que je crois que je ne connais pas.
Ah, enfin un invité, parce que la plupart à qui on pose la question, ils ont leur recette. Ils ont des petits trucs.
Je suis obligé d'avouer que je ne connais pas.
Il y en a qui mettent... Voilà. Alors écoutez, à la sortie de notre émission, je vous inviterai à manger de la tarte au fromage.
Donc, bonne
idée.
Vous
venez exactement de Bourganeuf.
Ah oui.
Un village de 3000... Enfin, une petite ville, oui, une grande petite ville de 3000 habitants. Voilà. Quand on vient d'un petit patelin comme ça, je ne sais pas, c'est la taille de Soult-sous-Forêt ou...
Ou Bischwiller.
Ou Bischwiller, voilà. Est-ce que c'est ça qui donne envie de parcourir le monde ?
Je le crois profondément.
Oui.
Parce qu'en fait, comme chacun le sait, la Creuse est une terre d'émigration. Notamment, on a beaucoup parlé des maçons de la Creuse qui ont construit le Paris haussmannien. Et donc, c'est vrai que beaucoup de Creusois ont quitté la Creuse parce que c'est une zone rurale où, quand on était famille nombreuse, bon...
Il y en avait toujours un ou deux qui partaient.
Oui.
Oui, un voilà. Qui allait dans l'armée, l'autre chez les curés, la fille
exact.
Chez les bonnes sœurs.
Et d'autres, au Mexique, comme moi.
Voilà. Voilà. Et donc, vous êtes parti quand même parce qu'il n'y avait rien à faire dans la Creuse ?
Parce que... disons que j'ai fait mes études en Limousin, j'ai passé mon bac à Guéret, d'ailleurs, le chef-lieu de la Creuse, puis je suis passé en Hippocagne, ensuite à Limoges, dans un grand lycée de Limoges, et puis j'ai finalement fait des études de philo en fac, à Poitiers et à Paris, et puis ensuite j'ai été professeur, tout naturellement, j'ai commencé ma carrière de prof dans la région parisienne, en fait, et les hasards de la vie ont fait qu'un beau jour, j'ai bifurqué vers... les alliances françaises et le...
Pour terminer, entre guillemets, en Alsace.
Pour terminer en Alsace.
Ça fait quand même 20 ans, hein, je crois que vous êtes...
Une vingtaine d'années,
que vous êtes bon Alsacien, quand même.
Oui, oui.
Enfin, un vrai Alsacien, surtout un Barinois, bon, à part le Gewürz, et puis deux ou trois autres petites choses, il connaît la tarte au fromage.
Ça, je suis désolé.
Vous êtes encore, un petit peu de l'intérieur, là.
Je suis voilà. Encore un bleu
alors,
en Alsace.
Voilà, mais alors, parlons de l'Alliance française. L'Alliance française, c'est le rayonnement de la culture française, et peut-être des valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité, partout dans le monde. C'est cela.
Il faut savoir, et je crois que ça intéresse les Alsaciens, il faut savoir que l'Alliance française est née au lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870, quand il y avait donc...
En 1919, en fait, la première...
L'Alliance française...
En Alsace
Le siège premier, c'était évidemment à Paris, et elle est née en exactement en 1883, quelques années avant le souvenir français...
Oui.
Donc ce sont des organisations qui sont nées à un moment où la France avait besoin de se relever et de se redonner une image prestigieuse. D'où, à l'époque, qui était l'époque d'ailleurs d'expansion coloniale, on a développé cette organisation qui était là pour promouvoir la langue française en Europe et dans tous les pays du monde.
Oui, mais alors je disais qu'à Strasbourg... C'est au lendemain de la victoire, voilà. C'était « il est chic de parler français, net ».
Voilà.
Voilà. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu la création de l'Alliance française à Strasbourg. C'était à Strasbourg d'ailleurs ou à Colmar ou...
Dans plusieurs localités, mais il y a eu une Alliance française mise en place à Strasbourg au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc après le retour, on va dire, de l'Alsace à la France. Et c'était une association. Toutes les alliances françaises du monde sont des associations locales. Donc, dans plein de petites villes d'Alsace, où on ne parlait plus le français, il y a eu des petits comités alliances françaises pour inviter les gens à se remettre à l'étude du français par des cours de conversation ou des cours de langue, hein, tout simplement. Et puis, cette alliance française de Strasbourg, elle a petit à petit périclité dans les années 30. Et puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, l'annexion, et à nouveau la mise en place d'une alliance au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1947 exactement.
Voilà. Et est-ce que ces alliances françaises sont, entre guillemets, pertinentes et efficaces ? Pertinentes forcément, puisque cela permet à des gens d'un pays d'apprendre la langue française, et donc de se familiariser avec la culture française, les Lumières peut-être, oui. Et autrement, est-ce que ça permet aussi peut-être de créer des liens entre, un petit peu comme Erasmus, entre les différents pays ?
Ce que je peux dire déjà, c'est en ce qui concerne l'Alliance française de Strasbourg, elle a ouvert une école de langue en 2003, si j'ai bonne mémoire, et elle brasse de très nombreux étudiants de tous les pays du monde, plus d'une centaine... Les étudiants de l'Alliance viennent d'une centaine de pays et ça brasse donc beaucoup de gens curieux de découvrir la langue française, la France, l'Alsace et ce petit cœur d'Europe qu'est Strasbourg.
Ah oui, donc c'est... Est-ce qu'il y a des Alsaciens qui vont à l'Alliance française parce qu'ils maîtrisent mal le français?
Peut-être non.
Plus aujourd'hui, mais...
Plus aujourd'hui.
Oui, mais peut-être...
Mais ça a été le cas, bien sûr, la fin des années 40 et au début des années 50, où il y avait... Il y a eu... Si l'association a réouvert dans les années 40, c'est qu'il y avait une demande, il y avait un besoin.
Oui, vous dites les années 40, 45 quand même, après...
Oui, après bien sûr, après la libération, et en 47, hein, l'association a ouvert. Et c'était essentiellement pour des cours de conversation, et c'était pas une école, hein, c'était des cours de conversation, une façon pour les gens de se refamiliariser avec la langue.
Voilà, alors votre parallèle, c'est le Goethe-Institut.
Voilà.
Bon, il y a aussi l'Institut italien, espagnol et tout, Cervantes. Mais le Goethe-Institut, après 1945, il n'a pas eu le droit d'avoir officiellement son siège à Strasbourg. Est-ce que ce n'est pas de l'ostracisme, ça? C'est parce qu'on ne voulait plus parler des Allemands?
Ben, je crois plutôt que ça venait... Enfin, je ne connais pas bien l'histoire du Goethe-Institut. Mais il me semble que pour les Allemands, Strasbourg et l'Alsace, c'était une terre germanophone. Et donc, les Goethe-Instituts, on les installe là où on ne parle pas l'allemand. Donc, je crois que, à mon avis, la raison était celle-là. Je peux ajouter un petit détail. J'ai été envoyé en poste en Inde, dans la ville de Pune, en 1981, pour mettre en place une alliance française. Or, Pune, au lieu du sanskritisme des études... Des études sur l'Inde ancienne qui attirent des savants de toute l'Europe, il y avait un institut allemand. Ça a été le premier institut allemand installé en Inde, était l'institut de Pune, où j'ai été envoyé.
Et vous étiez là pour...
Mettre en place une alliance. Voilà.
Française.
Absolument.
Voilà. Donc Jacques Vallée, racontez-moi, alors on va passer un petit peu en revue tous les pays où vous avez œuvré, pas forcément dans l'ordre, donc on est en Inde.
Alors j'ai œuvré en Inde de 1981 à 1987.
Donc tout de suite après l'accession de M. Mitterrand au pouvoir en France.
Exact.
Avec Jacques Lang.
Avec Jacques Lang. Mitterrand d'ailleurs qui en 1983... a organisé, ont fêté le centenaire de l'Alliance française dans le monde. Et il y a eu un grand rassemblement à Paris. Et on a été reçus par François Mitterrand à l'Élysée, avec des présidents de toutes les alliances du monde. Enfin, il y avait beaucoup de monde. C'était une parenthèse concernant François Mitterrand et l'Alliance.
Et donc, est-ce que les Indiens, donc après la partition de 1947, hein, si je ne me trompe pas, Lord Mountbatten, après la création du Pakistan, où vous irez ensuite, et du Bangladesh, où on parlait l'anglais quand même.
Ah ben bien sûr.
Voilà. Vrai. Alors, qu'est-ce que le français venait faire là-bas?
J'ai constaté avec stupeur en étant en Inde que la plupart de mes élèves, qui étaient souvent des élèves brillants, évidemment
des castes hautes,
des catégories sociales un peu privilégiées, parlaient tous au moins trois ou quatre langues déjà. Parce qu'en Inde, il y a quand même 17, je crois, langues officielles, l'anglais servant de langue véhiculaire, mais donc mes étudiants parlaient leur langue maternelle de là où ils habitaient, plus l'hindi, qui est une langue importante dans l'Inde du Nord, plus l'anglais. Et cette plasticité, cette facilité à parler plusieurs langues, fait que beaucoup de mes étudiants trouvaient normal d'apprendre une deuxième langue occidentale, et le français se présentait comme étant la langue privilégiée.
D'accord. Et le chinois et le japonais?
Non.
Ou le russe?
En tout cas, à l'époque en Inde, non.
Non. Maintenant, c'est le chinois qui remplace un petit peu l'anglais en Europe, c'est le chinois un petit peu partout en Asie, non?
Non. L'Inde, il faut savoir, l'Inde tourne le dos à la Chine, comme vous le savez, il y a une relation difficile, et donc j'ai pas le sentiment que le chinois va remplacer l'anglais comme langue véhiculaire. Vous diriez cela à des Indiens, ils n'apprécieraient pas, à mon avis.
Bon, d'accord. Alors ensuite, vous êtes parti au Pakistan.
Alors j'ai été envoyé au Pakistan en 1987, un an avant l'assassinat du dictateur Ziaulak, qui a été dégommé en avion en 1988, donc à l'époque de l'arrivée au pouvoir de la célèbre Benazir Bhutto.
Et alors, vous parliez en anglais là-bas ?
Alors, bien sûr, je parlais très bien l'anglais indien, ce qui fait que je me suis adapté merveilleusement bien au Pakistan, où la langue officielle, cela dit, s'appelle l'ourdou. Et l'ourdou était la langue, c'était de l'hindoustani, donc très proche de l'hindi, et c'était la langue de la cour des grands mogols à l'époque où l'Inde était dominée par des souverainetés musulmanes.
Mmh. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez lu des romans de ces pays ?
Ah, ben bien sûr.
Traduits, peut-être
J'ai lu beaucoup de romans, pas traduits, des romans enfin, d'auteurs indiens ou pakistanais écrivant en anglais, parce que beaucoup de grands auteurs choisissent l'anglais comme langue d'écriture.
Pour pouvoir être mieux diffusé ou parce
que... Ou parce qu'ils ont été éduqués à l'anglaise, que la langue anglaise voilà. Est la langue... Un peu comme au Maghreb, vous avez beaucoup de grands écrivains qui ont choisi le français.
Et alors, est-ce qu'à l'Alliance française, vous défendiez, alors je vais dire, Flaubert, Proust, Georges Perec, même
bien sûr.
Déjà
à bien l'époque. Sûr, oui. on défendait la culture française en général, évidemment sa littérature, et beaucoup de mes étudiants indiens, notamment, s'intéressaient à la littérature française, qu'ils connaissaient via leurs études en anglais.
Mmh. C'est Alexandre Dumas, je crois, l'auteur le plus lu, en tout cas.
Oui, il y avait on parlait beaucoup d'Alexandre Dumas, mais bon, les Indiens parlaient beaucoup de Victor Hugo. Hein, Victor Hugo est quand même...
Oui, quand même.
Ouais,
oui.
On parlait beaucoup de Victor Hugo. Et bon, ils parlaient aussi, bien entendu, de Flaubert et de Balzac. Mais c'était Victor Hugo qui était l'auteur le plus
Victor
fameux.
Victor Hugo, la tour Eiffel littéraire française.
Voilà.
Partout, voilà, voilà. Alors, peut-être que c'était un petit peu postérieur, mais est-ce que les grands ambassadeurs culturels de la France ne sont pas Mireille Mathieu, Gérard Depardieu, Brigitte Bardot ? Non ?
Ça dépend des pays. Bon, par exemple, Brigitte Bardot, en Inde, pas trop, parce que l'Inde, en tout cas à l'époque, l'Inde était un pays plutôt pudibond, et donc Brigitte Bardot ne faisait pas partie des personnalités françaises qui véritablement les impressionnaient. En revanche, je dirais plus, oui, c'est probablement Mireille Mathieu, parce que la voix de Mireille Mathieu, et Edith Piaf, bien sûr, avant, étaient des...
Oui, mais Mireille Mathieu... Elle faisait des tournées dans tous ces pays, au Japon.
Et elle chantait dans toutes les langues.
Ah, oui, phonétiquement. Moi, je l'ai entendu, mais bon, plus tard, c'était dans les années 2010, chanter à Tashkent, en Ouzbékistan.
En ouzbek.
Et je l'ai vu après dans les coulisses, elle disait, je n'ai pas compris un mot de ce que j'ai chanté. Mais c'est bon, c'est rigolo, c'est sympa. Avec un prompteur déjà.
Oui, j'imagine. Elle devait s'entraîner. Quand
voilà. Donc, la France quand même, alors au Pakistan et en Inde, c'est quoi le grand... C'est pas Montesquieu, hein, je pense.
Bon, la France là-bas a un double prestige. D'abord, prestige d'une grande culture européenne, d'une grande civilisation européenne, et également le côté la France, pays de la Révolution.
Guillotine aussi
Un peu de la guillotine, mais quand même un pays prestigieux pour sa révolution. Le pays qui a par ailleurs donné au XIXe siècle... que ce soit en peinture, en littérature et partout, des merveilles.
Voilà, alors Jacques Vallée, avant ces pays asiatiques, vous étiez au Mexique.
Exactement.
Alors, comment avez-vous atterri, alors j'ai dit « Et les chiens, aucune nue, dévoreurs du tropique », c'est, je crois, une chanson de Boris Vian, si je me souviens bien.
Peut-être.
Oui, je voudrais pas crever avant d'avoir connu, voilà, c'est ça, c'est Boris Vian. Donc je citais ça un peu pour faire le malin au début de l'émission, mais comment est-ce que vous avez fait pour débarquer Mexico ? Vous étiez amoureux d'une Mexicaine ?
Voilà, j'étais...
Pas
cela. J'avais connu des Mexicains, et notamment un Mexicain qui m'a invité à venir en vacances au Mexique. J'ai adoré ce pays, et comme je suis un creusois migrateur, une fois à Mexico, enchanté par ce que je voyais, j'ai voulu à tout prix rester. Donc j'ai trouvé d'abord des petits boulots de prof de français à Mexico, et l'Alliance française de Mexico finalement m'a donné un poste plus institutionnel, on va dire.
Voilà. Et alors ensuite, vous êtes toujours à Strasbourg, hein, vous êtes toujours en poste, mais vous êtes aussi un petit peu retraité. Donc, vous écrivez des romans.
J'écris. Le mot roman n'est pas le mot adapté.
Vous,
j'écris, on va dire.
Vous écrivez.
Et j'écris plutôt des récits.
Voilà.
Et, mais la première source de cette envie d'écrire, c'est pas mes voyages dans l'espace, mais plutôt le voyage dans le temps. Moi, je suis intéressé par l'histoire. Et notamment, mes trois premiers livres sont des livres essentiellement historiques. Sur l'histoire du Moyen-Âge. Donc,
Et la commanderie des Templiers.
Oui.
Alors, c'est quoi, ça? Parce que...
je suis, comme vous l'avez dit, je suis originaire d'une petite bourgade du Limousin qui s'appelle Bourganeuf.
Oui, une ville médiévale.
Cette petite bourgade médiévale, effectivement, était une commanderie des Templiers à l'origine, qui est devenue une commanderie des Hospitaliers, une fois que Philippe le Bel en a eu fini avec l'ordre des Templiers. Et c'est dans cette petite ville, d'ailleurs, qu'il y a eu un événement un peu extraordinaire. Un prince ottoman, le frère du sultan Bajazet II, a résidé dans une tour du château de Bourganeuf pendant 5 ans, à l'époque du roi Louis XI. Et je me demande si ça n'est pas aussi pour moi un des germes de mon imaginaire et de mon inspiration pour écrire.
Avec un roman, Le Vert Turban.
J'ai écrit c'est pas un roman, c'est un récit qui s'appelle Le Vert Turban, où je raconte les derniers mois de vie de ce personnage incroyable qui s'appelait Jem Sultan.
Et c'est une petite occurrence sur Victor Hugo ?
Alors, le titre est inspiré d'un poème des Orientales de Victor Hugo.
Oui. Oui. Bravo. Enfin, bravo. Je m'auto-félicite de me souvenir de mes lectures. Voilà. Et vous écrivez d'autres choses aussi que des récits.
Alors, j'écris mes premiers écrits ont été inspirés par mon goût de l'histoire et notamment de l'histoire médiévale. Et Le Vert Turban en fait partie, puisque c'est un récit qui raconte un épisode de l'histoire au Moyen-Âge. Et ensuite, j'ai écrit un ouvrage lié à mon expérience au Mexique.
Mais qui n'est pas un guide touristique pour le
Point
Mexique.
Point du tout, il n'y a ni un roman, ni un guide touristique, il y a une sorte de... Ce sont des mélanges, des fragments.
J'ai lu que vous le sous-titriez « Ode à un ami mexicain
».
C'est ça ?«
Ode à un ami mexicain et au pays du serpent à plumes ».
Oui,
exactement.
Alors, le serment, oui.
Et au pays du serpent à plumes. Alors, je vais vous dire, c'est que l'ami mexicain grâce auquel j'étais parti à Mexico il y a fort longtemps est mort du Covid en 2000, où il y a eu une épidémie très forte à Mexico, et il a été emporté par le Covid. Et c'est quand j'ai reçu cette nouvelle, moi j'étais déjà à Strasbourg, j'habitais tranquillement en Alsace, j'ai reçu cette nouvelle, et du coup des souvenirs me sont remontés à la surface, et ça m'a donné envie de les écrire sous forme de fragments qui sont devenus une forme d'abécédaire. En fait, c'est un abécédaire.
Oui, eh ben voilà. Écoutez, on peut le trouver en librairie.
Si on le commande, on peut le trouver en librairie.
Voilà, oui. C'est une bonne occasion de conclure notre émission. Jacques Vallée, c'était l'épisode numéro 152. Jacques Vallée, une alliance zélée. Alors, vous venez de dire que vous parliez l'ourdou.
J'ai étudié un peu l'ourdou quand j'étais au Pakistan.
Donc c'est la langue du Pakistan ?
C'est la langue officielle du Pakistan, oui.
Alors, est-ce que vous pourriez traduire en ourdou, enfin maintenant, interpréter en ourdou cette phrase « Bonjour, je suis heureux d'être invité à la radio à Strasbourg et j'adore la tarte au fromage. » Dites-moi ça en ourdou.
Impossible, cher ami.
Non, alors dites-moi quelque chose en ourdou.
Carré.
Ce qui veut dire bonjour.
Ce qui veut dire bonjour, comment allez-vous?
Ah voilà. Mais une phrase complète.
Non, c'est un peu difficile pour moi maintenant. Oui.
Voilà.
Je suis trop détaché.
Alors, la semaine prochaine, on va faire du cheval en grimpant sur un éléphant. Ah, ça, c'est. Ah, donc, c'est un petit peu en Asie et tout. Bon, c'est en Thaïlande. Voilà.
D'accord.
C'est une dame qui a un hara à Strasbourg et qui apprend à parler aux oreilles
des
éléphants et des chevaux. Et ça va vous plaire, parce que c'est aussi quelqu'un qui a voyagé. Voilà. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.
fellows meet, like you and I. No connection between...